Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, soucieux en survie et sorciers en sursis. Vous écoutez l'onde curieuse de ce jeudi 5 février. Et aujourd'hui, fin de partie, comme le disait Samuel Beckett. On range les cotillons, on sort la tête d'autruche de là où on l'a enfui et on allume la lumière. Une lumière lux, lucis en latin, qui nous fait lucide, donc, et une lumière qui, par le processus photographique, nous révèle ce qu'il est difficile de voir, nous révèle, c'est-à-dire lève le voile, c'est-à-dire encore étymologiquement l'apocalypse. Ouais, programme ambitieux et audacieux aujourd'hui à l'heure du déjeuner ou du goûter, mais les invités d'aujourd'hui suspendent leur fatidique, parlent d'un monde en sursis et invitent à des échappées comme autant de suspension et de respiration. Les invités, c'est Mathias Kor, qui est photographe, et Claude Molzino, qui est philosophe, et tous deux entrent en dialogue autour de la philosophie et de photographie du temps présent à travers une exposition qui sera visible à la ferme à Aubenas jusqu'au 13 mars, exposition tirée d'un ouvrage, et d'où le titre aussi de l'exposition, Figure d'un monde en sursis. On en parle dans un instant avec légèreté et allégresse, ou au moins on l'espère, poésie et espoir. Mais d'abord, la bise à Sylvain.
Bonjour, bonjour.
Salut Sylvain, et l'agenda. Dans cet agenda, quelques parades au monde surtechnologisé où l'on confond ce qui est possible et ce qui est souhaitable. Quelques respirations donc. D'abord, rêver et rêver ensemble. Justement, la compagnie de marionnettes Rêverie Mobile, qui est en résidence cette semaine au Met Auteuil pour sa nouvelle création « Le rêve du papillon » entre pré-cinéma, théâtre d'ombre et piano, propose de découvrir une étape de création ce soir à 18h30. Le rêve du papillon, c'est un spectacle jeune public, à partir de 3 ans, qui explore la frontière délicate entre le jour et la nuit, le rêve et l'éveil, l'imaginaire et le réel, tout cela inspiré du songe de Chang Tse. Au cœur du spectacle se tient l'oniroscope, une machine optique aux allures de lanternes anciennes. C'est libre d'entrée, ça dure à peu près une heure, et puis pour ne rien gâcher et prolonger la rêverie, il y a un verre partagé à l'issue de la rencontre, ce soir, donc à 18h30, au Met d'Auteuil. Quoi d'autre dans cet agenda ? Un autre rapport à l'argent, peut-être. Les No Money Kids, ce groupe parisien, règle-t-il vraiment son compte à l'argent ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il crée un beau rock blues électro. Et il sera demain à la salle Le Bourneau à Aubenas. Inspiré par The Kills ou The Black Keys, mais aussi par les maîtres du blues comme Robert Johnson, les No Money Kids nous embarquent dans une Amérique fantasmée, celle d'un road trip nocturne sur une route déserte entre riffs hargneux et beats électro. Et en première partie, c'est Damien Jourdan qui, entre rock et chanson, invite à un road trip en français, lui, c'est-à-dire un voyage sur la route, quoi, hein, et sort d'ailleurs un quatrième album au titre qui laisse songeur « Ne faisons rien, c'est cela que l'on fait le mieux ». Damien Jourdan et les Money Kids sont demain à la salle Le Bourneau à Aubenas pour 10 ou 12 euros. Être attentif au monde qui nous entoure. Marine Meunier a réalisé un film documentaire « Backtrack Canada » où elle explore les forêts et les rivières canadiennes. Et elle sera présente pour en parler à l'issue de son film projeté ce vendredi à 20h à la médiathèque de Villeneuve-de-Berre et samedi aussi à 20h à la salle des fêtes de Prunay. Ces rendez-vous ont lieu dans le cadre des projections itinérantes mensuelles de la web radio Allô la planète, baptisée Courte Escale, autour du film de voyage et du documentaire. On rit parce que Mathias, notre invité, ont affilé une chaise qui queen. Bonjour Mathias.
Bonjour Sophie.
Et bonjour la chaise qui queen. Les projections, donc, que ce soit vendredi ou samedi, sont à 6 euros et 5 euros pour les 13-18 ans. Elles sont gratuites pour les moins de 12 ans. Vous trouverez toutes les infos sur le site festival-joyeuse-escale. Autre possibilité, l'amour. Et je vous rappelle les deux dates, aujourd'hui et demain, pour découvrir le travail de la compagnie Insolite Fabrique au théâtre de Vals, les Quinconces. La compagnie Insolite Fabrique, c'est la première troupe d'artistes professionnels en situation de handicap. Et ils proposent ce soir Roméo et Juliette sous un prisme différent avec le spectacle Dis-le en un souffle. Et demain à 20h30, toujours au Quinconces de Vals, le documentaire Roméo et Juliette, amour extraordinaire, suit la genèse du spectacle qui a duré près d'un an. La metteuse en scène Malo Lopez et les comédiens seront présents. Quoi d'autre? Le don de soi, le don du sang. La prochaine collecte, c'est lundi de 9h30 à 13h à la salle Omnisport d'Evance. Alors ça y est, vous voyez cette lueur brillante, rosée ou dorée qui paraît dans le ciel avant que le soleil n'arrive sur l'horizon. Vous voyez pointer l'aurore. L'aurore, bien sûr, c'est le titre du chef-d'œuvre de Murnau de 1927, sous-titré « A Song of Two Humans », qui est projeté au cinéma Le Navire dans le cadre des escales patrimoine. Et contrairement d'ailleurs à ce qui est annoncé dans le Dauphiné Libéré, ce n'est pas ce soir, non, c'était hier. Mais il y a deux autres projections, lundi à 15h et mardi à 20h45. Et d'après la critique de DVD Classique, je cite « La force émotionnelle de cette symphonie visuelle vibre toujours autant aujourd'hui, car porteuse d'un message d'amour, d'envie et de vie qui sauve encore, mais pour combien de temps, l'humanité, même lorsque celle-ci approche du précipice qu'elle s'échine avec conviction à creuser. » Eh bien, on en parle dans un instant avec Figure d'un monde en sursis, mais d'abord, toujours de l'espoir. Vous l'aurez reconnu, le Nabucco de Verdi, Va Pensiero, le cœur des esclaves. Le choix de nos invités, la philosophe Claude Molzino. Bonjour Claude.
Bonjour Sophie et Sylvain.
Ouais, bienvenue. Et Mathias, qu'on a entendu sur sa chaise couiner, Mathias Corr, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'abord, pourquoi ce choix musical ?
Pourquoi ce choix musical ? Parce que je pense que ça représente l'espoir. Malgré le fait d'être dans un état d'esclavage, il y a encore un espoir.
Un espoir. Parce qu'on a besoin d'espoir. C'est... Alors, vous êtes là tous les deux parce que vous présentez à la ferme à Aubenas jusqu'au 13 mars une exposition, donc deux photos et deux... texte philosophique, oui. Qui s'appelle « Figure d'un monde en sursis », une exposition issue d'un livre que vous avez fait tous les deux, un livre qui s'appelle donc Figure d'un monde en sursis, un dialogue entre philosophie et photographie du temps présent, qui a été édité en 2018. Et donc aujourd'hui, cette exposition à la ferme, à Aubenas. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Claude, par exemple, la genèse de ce projet ? Ah non, Mathias, tu lèves le doigt, mais vas-y.
Oui, ok. Cette exposition et le livre d'ailleurs, il y a une histoire derrière. C'est, on s'était rencontrés avec Claude, je pense, on se connaissait depuis très longtemps, quoi. Mais on s'était rencontrés autour d'une sélection de photos qui émergeait un peu dans mes archives. Je pense que c'était autour de 2016.
Oui.
Et j'explique peut-être un peu comment je travaille habituellement sur mes séries, les projets. Donc, en général, je n'ai jamais une idée préconçue d'un projet. Il y a une photo qui évoque quelque chose, qui crée une résonance, qui émerge comme un îlot d'un archipel, quoi, qui n'est pas encore archipel. Et après, il y a d'autres photos qui commencent à émerger, qui rentrent en dialogue, qui commencent à créer une espèce de tissu, hein, où il y a quelque chose qui émerge. Et puis, à cette époque-là, j'étais devant un tas de photos où je sentais qu'il y avait quelque chose qui faisait lien entre ces photographies, mais je ne savais pas trop mettre des mots derrière. C'était comme regarder la réalité, mais à travers de ces photos, mais de voir aussi dans cette réalité une espèce de fissure, quelque chose qui ne tournait pas ou qui ne tournait plus rond. C'est comme si le monde, il était toujours debout, mais ces fondements avaient déjà glissé quelque part, et puis on ne sait pas trop combien de temps ça tiendra encore.
Et ça, tu t'en rends compte en regardant a posteriori des photos prises comme ça, mises, enfin qui se côtoient comme ça, et pas au moment de la prise de vue. Au moment de la prise de vue, qu'est-ce que tu décides de faire une photo parce que tu penses déjà à d'autres photos auxquelles elle pourrait répondre, ou alors c'est juste l'instant?
La prise de vue, elle n'est quasiment jamais liée à un projet. C'est qu'à un moment donné, il y a une relation entre, on va l'appeler une entité physique, hein, ça peut être un objet, ça peut être un être humain, ça peut être un animal, ça peut être une plante, ça peut être quelque chose de minéral. Il y a une sorte de relation qui s'établit, un lien, et parfois on a le besoin, voilà, on veut, c'est pas le fichier, mais le fait de le regarder, de prendre une photo, c'est, ouais, c'est une façon d'être en fait. C'est se mettre aussi en relation avec cette entité physique, avec ce qu'on est en train de fixer, soit sur une pellicule, soit sur un capteur digital.
Et alors pour cet archipel, tu as employé le terme, hein, de photo, dont tu sentais qu'il y avait comme une fissure, mais que tu n'arrivais pas à mettre les mots dessus.
J'arrivais pas à mettre les mots dessus, et après, c'est Claude, en fait, qui a su exprimer quelque chose que je ressentais, mais que je n'arrivais pas à conceptualiser.
Et alors, Claude, qu'est-ce qu'il ressentait qu'il n'arrivait pas à conceptualiser ?
Moi, je partirais volontiers de l'idée de... Bon, déjà, cette prise de vue, c'est ce rapport à ce qu'on appelle le kairos en grec, c'est-à-dire la capacité à saisir dans l'instant quelque chose d'absolument unique, singulier, et donc un rapport au temps. Et moi, j'ai trouvé que toutes les photos de Mathias avaient ce rapport au temps, avaient ce rapport à la présence, et d'un temps qui... Alors, pensez à temps, nous dit Eric Sadin. Je profite au passage pour faire une petite publicité pour dire il faut absolument que tout le monde lise Eric Sadin parce que c'est un penseur actuel absolument essentiel. Pourquoi essentiel ? Parce que nous sommes en train de glisser sans le savoir ou peut-être en le sachant et en le sachant tellement que c'est un déni parce que c'est tellement angoissant. Donc effectivement, comme le dit Mathias, quelque chose qui est magmatique, sismique, et qui fait que tout ce qui était le monde, alors on ne va pas faire du passéisme, mais le monde d'hier, est en train de s'écrouler. Et donc, moi ce que j'ai vu dans les photos de Mathias, c'est ce rapport au temps. Parce que penser à temps, ça veut dire aussi penser le temps. Et le temps, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est comme il vient de le dire, saisir l'instant présent, et ça sans forcément être en train de chercher à planifier, au contraire. Et donc saisir avec ce qu'il y a de prédation, de captation dans le geste photographique, il le fait de façon totalement double. Parce que pour saisir l'instant et savoir ce qu'il faut prendre en photo, ben, il faut se laisser affecter par le réel. Et donc finalement être autant réceptif et accueillant du réel, on va dire le réel, entité physique, tu as dit Mathias, bon voilà, hein, c'est-à-dire ce qui nous entoure. Il faut être donc, c'est ce qu'est Mathias dans ses photos, autant dans la réceptivité que dans ce qu'il y a de prédation dans le geste photographique, qui se retrouve aussi effectivement. Une des caractéristiques qui fait l'unité de ces photos, c'est cette sorte de manière d'être à distance, souvent en plongée, des photos, des prises de vue frontales, donc d'une certaine manière, ça met à plat. Mais mettre à plat, c'est aussi construire une image, et c'est dire, les photos que je fais, c'est pas du document, c'est de l'art. Et pour moi, l'art est porteur de vérité. D'où le fait que nous avons pu faire ce livre ensemble.
L'art est porteur de vérité, ça mériterait 3 heures d'émission. Mais,
alors, quand est-ce on y va.
Bientôt, ben, on termine, oui. On mange un bout et on y va après. Oui. Mais pour qu'on se représente, est-ce que, par exemple, tu pourrais décrire, alors, exercice radiophonique, oui. Décrire une image, une photo oui. de Mathias et dire... Comment tu t'en es emparé, ce que ça t'a oui. évoqué, et comment tu la mets peut-être aussi, tu la rapproches d'autres, enfin de concepts philosophiques, mm-hmm. si c'est le mm-hmm. cas.
Ouais. Peut-être l'apprentissage par l'apprentissage, la soustraction.
L'apprentissage de la soustraction.
Ou de la soustraction.
Qui est une expression que j'ai empruntée à Théodore Monod, qui est un savant et un penseur absolument essentiel et
protestant.
Théologien protestant, mmh. oui, tout à fait. Et une personne extraordinaire, enfin, qui, bon, à 92 ans, obligée de quitter le chameau pour faire ses explorations. Donc, l'apprentissage de la soustraction, c'est une photo que l'on trouve donc à la ferme, hein, que l'on va voir, qui est comme la photo d'un désert, caillouteux, avec des galets. Il n'y a rien sur cette photo. Enfin, il n'y a rien. Enfin, une image qui nous met devant l'espace, la respiration, le vide. Apparemment le désert, Monod. Mais en réalité, cette photo, Mathias me l'a dit, c'est une toute petite prise de vue d'un fragment de plage de Normandie. Donc en fait, d'un côté, il doit y avoir une maison, de l'autre... C'est-à-dire qu'avec très peu, une toute petite photo, un tout petit fragment d'espace, on peut ouvrir l'essentiel, l'infini, le vide. Et donc... se débarrasser de tout ce qui nous sature en permanence, de tout ce qui nous empêche de respirer, de penser, de ressentir. Cette photo, pour moi, elle est d'une certaine manière emblématique du travail photographique de Mathias. Mmh.
Mathias, quand tu entends du coup ce que Claude Moldino en tire de cette photo, toi, ça, tu te dis oui, c'est ça, c'est juste, ou alors ça vient enrichir quelque chose qui n'était pas ce à quoi tu pensais au départ.
Oui, ça fait résonance à ce que je ressens quand je regarde la photo maintenant. Et je pense aussi que c'était inconsciemment ce que je ressentais quand j'étais devant cette dune plage de Calais. Quoi. Je crois que c'était dans la baie de Somme. Ouais, d'ailleurs. Et aujourd'hui, peut-être avec... avec les explications de Claude, avec les échanges qu'on a eus sur beaucoup de photos, mais on se rend aussi compte que la relation qu'on a eue avec une photographie, j'aime pas trop le raccourci photo, hein, j'aime bien utiliser le mot photographie, hein, c'est que le rapport à une photographie, évidemment ce rapport-là, il change aussi avec le temps, il n'est jamais figé. Et donc, ce que j'ai pu ressentir il y a 10 ans ou 12 ans quand j'ai pris la photo, aujourd'hui, évidemment, c'est un rapport qui est différent avec cette photo-là, comme avec les autres photos. Hein. C'est, Et je pense que ça aussi, c'est une des caractéristiques de ma façon de travailler. Je suis pas le seul, hein. Une photo, en fonction du contexte dans lequel on le met, elle prend une autre signification. Elle peut prendre une autre signification pour le photographe qui était à l'origine de la prise de vue, mais aussi pour un spectateur.
Et d'ailleurs, effectivement, cette notion de durée, de temps long, elle prend aussi son sens parce que, je le disais, cette exposition, elle est issue d'un livre qui a été publié en 2018, donc il y a presque 8 ans. Des choses ont changé, et singulièrement, puisqu'on évoquait ou en introduction, peut-être moins là dans le début des échanges, mais ce rapport aussi à la technique, au monde, voilà, au monde qui va alors, est-ce qu'on dit de plus en plus vite? Ouais. Mais là, depuis 8 ans, mais on vit dans un autre monde, non?
Non, pas tout à fait.
D'accord.
C'est le même,
C'est le
mais
prolongement.
qui se prolonge et qui se verrouille. Tu, vous, avez raison ou a raison de dire qu'il s'agit d'un monde. C'est-à-dire que la technique, il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est pas un ensemble d'outils. Un outil, c'est ce qui est utile. Un outil, quand on s'en sert, quand on s'en servait, parce qu'il n'y a plus d'outils aujourd'hui, ben, on s'en servait quand on en avait besoin, et puis quand on n'en avait plus besoin, on le reposait. Et on était dans le monde. La technique aujourd'hui, c'est ce qui fait notre monde. C'est-à-dire que c'est ce dans quoi nous nous trouvons, et c'est là où effectivement, bah, il faut se dépêcher de résister pour continuer à exister, et c'est là où nous sommes en sursis. Et il y a 8 ans, c'était déjà ça. Il y a rien de fondamentalement différent, parce que tout ce que l'on est en train de constater aujourd'hui, c'est, comme l'expression générale le dit, dans les tuyaux depuis bien longtemps, et en réalité, on réagit après coup, et trop tard.
Au contraire, ce qui est terrible, c'est que 8 ans après, on a le sentiment que ce sursis qu'on ressentait, mais il est toujours là, mais d'une façon encore plus en sursis, quoi. C'est
La peau de chagrin,
ouais, le
il se
sursis,
restreint.
il se rétrécit, quoi. C'est
Et alors, d'après vous, justement, l'espoir vient d'où?
De la résistance, de l'art, de la capacité à penser. Et donc, de ce qu'on aimerait être l'école.
Oui. Et c'est ce que vous allez proposer tous les deux, à la fois l'art de penser, de faire un pas de côté, de ensemble peut-être voir le monde d'une manière un peu différente. Alors je le disais, il y a une exposition jusqu'au 13 mars à la ferme à Aubenas, mais il y a aussi une rencontre avec vous deux. C'est demain soir, donc vendredi à partir de 20h ou 20h30, selon l'heure à laquelle se termine le dessert, puisque si vous voulez, la ferme, on y mange aussi, hein, donc à partir de 19h, vous pouvez aller manger. Et avec vous, peut-être, pourquoi pas. Enfin, je les invite, moi j'ai l'art d'inviter les gens pas chez moi, quoi.
Merci.
Mais, donc vous pourrez, à partir de 20h30, donc il y aura une rencontre. Qu'est-ce que vous allez proposer pendant cette rencontre?
On va proposer ce qu'on est en train un peu de faire ici, de donner quelques clés de lecture aussi, et pour le livre, Figure d'un monde en sursis, et pour l'exposition. Et ce qu'on va proposer, notamment, c'est une forme de visite guidée. Ça veut dire qu'on va se prendre 2 ou 3 groupes de photos, où on va essayer avec le public, quoi, parce que il y aura aussi, il y aura,
Pardon, je t'interromps, mais
oui.
pour partir des photos, être dans la singularité des photos et ne pas avoir un discours général qui se plaque sur les oreilles des gens qui seront là. Partir des photos en elles-mêmes pour, à partir de là, réfléchir sur les photos et voir en quoi la photographie est effectivement une écriture et donc la possibilité d'écrire autrement l'histoire qu'est la nôtre.
La photographie est une écriture, et peut-être justement que les invités de demain et les suivants écriront une autre histoire à travers ces photographies. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont se dessiner. Oui.
Après, on proposera quelques clés de lecture, mais
Oui.
ça sera
Oui.
la clé, hein, à chacun de franchir le seuil,
Le
la
seuil.
porte, et
Et le seuil qui est la dernière des photos de l'exposition, justement.
qui s'appelle le seuil, oui.
Voilà.
qui s'appelle Le Seuil, et qui est ce quoi. Le Seuil, c'est ce moment où on passe dans un autre monde, où on bascule.
Je pense c'est que quoi, le seuil c'est à chacun de trouver son seuil.
D'accord.
Mais je dirais néanmoins volontiers que c'est là où, sortant de l'exposition, on essaye de faire en sorte que le monde franchisse un autre seuil que celui dans lequel il risque de s'enfoncer. C'est passer, retrouver la liberté, retrouver...
Mathias, j'aimerais peut-être qu'on revienne un petit peu sur les photos. Moi, j'étais assez étonnée du caractère hétéroclite, en tout cas des photos, qui sont... Il y a à la fois des photos d'archives, il y a des photos... Il y a la cabane d'Heidegger, c'est ça ?
La fameuse suite est la cabane de Heidegger à Tottenberg, oui.
Voilà, où tu, près de laquelle tu as grandi, c'est ça ?
C'est ça,
dans la forêt noire.
Dans le sud de la forêt noire.
Il y a des photos. Alors, j'ai cru lire que c'était ton grand-père avec le cigare.
Oui. Non. Avec le cigare, oui. C'est le grand-père côté paternel, oui, dans la série Tottenberg. Oui.
Tottenberg. Il y a vraiment des photos. Comment. Enfin bon, c'est tout l'objet de l'exposition, mais comment on relie des photos qui ont été prises aussi, des photos d'archives, qui ne sont pas prises dans le même. Dans la même temporalité, quoi. Enfin, qu'est-ce qui... C'est là où tu t'es dit, il y a quelque chose de fragile, il y a une faille, en fait. C'est en regardant, en choisissant ces photos parmi d'autres séries que tu avais faites avant. Hein, donc, comment ça se passe ?
Mais par exemple, la photo à laquelle tu fais allusion, le grand-père avec le cigare, c'est une photo que j'avais prise, j'avais 14 ans. C'est une photo qui était encore prise en argentique, et puis c'est une photo que j'avais plus vue depuis, j'en ai un certain âge maintenant, mais pendant presque 40-50 ans, pas 50 ans, non, je suis pas si vieux que ça, mais... Et c'est une photo que j'avais récemment découverte cette photographie quand je commençais à digitaliser une partie de mes archives que j'avais fait en argentique. Et c'est à ce moment-là où je commençais déjà à travailler sur une série sur le retour des régimes autoritaires, sur l'éternel retour des régimes autoritaires, où je me suis dit, mais la clé, en fait, la clé de la série, c'est ça. Parce que c'est quelque chose d'un côté, ça paraît politique, c'est la société, mais en même temps, tout ce qui touche à des régimes autoritaires, ça traverse aussi les familles, et c'est quelque chose qui se joue aussi dans l'intimité. Et après, bon, il y a cette image du cigare aussi, hein, après ça va plus loin encore, hein, ça représente une certaine forme de complaisance d'un certain capitalisme, hein, avec des mouvements d'extrême droite. Bon, je ne peux pas trop faire de l'actualité, mais j'en profite du coup de parler du livre de Johan Chapoutot, Les Irresponsables, hein, qui est d'une actualité mais brûlante. Et je pense ce matin sur France Culture, il y avait aussi une émission avec Chapoutot sur le sujet.
Johan Chapoutot, donc, qui est un historien spécialisé du nazisme.
Exact.
Qui fait aussi un lien entre les membres de... Enfin, l'organisation, la structuration nazie hiérarchique et le capitalisme. Alors, il fait pas de comparaison, mais il tisse des liens très intéressants.
Il parle plutôt du libéralisme autoritaire. Et donc voilà des photos qui avaient une autre signification. C'était une photo de souvenir, quoi, qui s'est transformée dans un autre contexte, qui avait acquis une autre signification. Donc voilà un exemple type comment une photographie peut évoluer et dans sa temporalité, mais aussi en fonction du contexte dans lequel on le met avec d'autres photographies.
Et pour terminer, c'est bientôt la fin de cette émission, juste sur l'affiche, qui a un côté un peu affichiste, dada ou punk. Pourquoi cette affiche-là, enfin justement, cette affiche en collage ?
Alors, elle est un peu en collage parce que ça représente aussi, comme tu viens de dire, il y a des photographies qui viennent un peu de tout horizon, quoi, des archives un peu plus actuelles, etc. Mais surtout sur l'affiche, ce qui est représenté, c'est une mèche de cheveux qu'on voit sur un matelas. Et ouais, je peux pas m'empêcher de faire une petite quand même de description de behind the scenes de cette photo-là. En fait, c'est les cheveux de ma fille Emma dans un hôtel à Amsterdam après avoir visité la maison d'Anne Frank. Donc, c'était pris sans avoir pensé à tout ça de façon consciente à ce moment-là. Mais après, ça me paraissait quand même un incroyable carrefour de coïncidences, parce que les cheveux noirs de ma fille Emma, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à la fugue de la mort de Paul Celan. Dein goldenes Haar, Margaret, dein aschenes Haar, Suleyma,
Tu peux traduire ce poème de Paul Celan?
En fait, juste de ce vers qui revient plusieurs fois, tes cheveux blancs, Margaret, et tes cheveux brun ou cendre, de couleur cendre, de Souleyma. Évidemment, ça fait allusion à une fille arienne avec ses cheveux blancs et à une fille juive avec ses cheveux plutôt bruns, quoi. Donc voilà, cette coïncidence entre la visite d'Anne Frank, les cheveux de ma fille avec. Je trouve que voilà, des photos, ils peuvent devenir un carrefour de pensée ou ouvrir une porte vers autre chose, ouvrir un horizon. Si on prend les photos pas comme c'est fait aujourd'hui, souvent comme un bruit, comme une avalanche d'images qui nous écrasent, mais quand on fait attention de vraiment voir, de regarder.
Eh ben merci. On invite les gens à venir justement voir, regarder le monde, un fragment des figures de ce monde en sursis que vous proposez jusqu'au 13 mars à la ferme, à Aubenas. Et donc demain, vous serez là tous les deux, donc Claude Molzino, philosophe, et toi, Mathias Corre, photographe, pour faire une petite visite guidée de cette exposition très intéressante. Merci à tous les deux.
Merci Sophie.
Merci à Fréquence
Merci
7.
Sylvain.
Merci. Et merci Sylvain, en effet, pour la réalisation de cette émission. Et merci à vous, auditrices et auditeurs. Restez à l'écoute de Fréquence 7, puisque. Alors, on se consulte, Sylvain. Oui, il y a un Télex à 15h. À 17h, c'est la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, la collective. Oh non, tu fronces les sourcils. Il faut la retirer de l'agenda alors. Il n'y a pas la collective à 18h, mais par contre, à 20h, il y a bien la tête dans le sillon. Non, nous ne sommes pas. Quel jour sommes-nous?
Non, non, non. Aujourd'hui, à 19h, on a Éclectrique et à 21h, on a État brut.
Merci
Tu n'as pas
beaucoup.
regardé la bonne semaine.
Mais je n'ai pas regardé la bonne semaine. C'est pour ça que j'ai toujours un coup d'avance. Et nous, on se retrouve lundi pour une prochaine onde curieuse. Et vendredi, c'est l'ami Olivier qui animera Cinémascope. Ciao.